Vous écoutez, on lit pour vous.
Utile, les salles de défoulement? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 31 mai 2026 dans La Presse. Marie Pépin, une lectrice, demande: est-ce que les Rage Rooms permettent de réduire la colère? Les salles de démolition ou de défoulement sont basées sur la théorie de la catharsis, selon laquelle l'expression physique des émotions négatives permet de s'en libérer, mais que peu d'études ont pu prouver. Et d'autres études montrent, au contraire, que les jeux violents peuvent mener à des habitudes de violence. Dans une salle de défoulement, on encourage notre cerveau à se mettre en colère, dit Sophie Gjærvik du Centre norvégien pour l'étude de la violence et du stress traumatique à Oslo. Madame Gjærvik a publié en 2024 dans la Clinical Psychological Review une étude à propos de l'impact sur la colère d'une dizaine d'activités sportives et des méthodes moins actives comme la méditation ou la psychothérapie. Les salles de défoulement ne faisaient pas partie de la liste, mais plus une activité était excitante, moins elle menait vers le calme. Pour les spécialistes de la colère, dit-elle, les salles de défoulement ne semblent pas une bonne manière de se calmer. C'est contraire à ce qu'on sait de la colère. De plus, il y a plusieurs études qui ont montré que voir une personne faire preuve de violence encourage par la suite les comportements violents, poursuit la psychologue norvégienne. On le voit avec les enfants qui voient frapper des poupées. Après, ils sont plus violents socialement. Ce type d'établissement est de plus en plus populaire et Montréal compte plusieurs salles de défoulement commerciales. Pour calmer sa colère, les pratiques éprouvées en psychologie tournent autour de la diminution de l'excitation physique et du rythme cardiaque. On calme son système nerveux, par exemple par la méditation pleine conscience, dit Madame Gjærvik. D'où alors vient l'idée que frapper des objets dans une salle de défoulement aide à diminuer la colère? C'est lié à la théorie de la catharsis, explique-t-elle. L'idée est qu'on fait évaporer la rage, qu'on se débarrasse des sentiments colériques. Mais il n'y a pas d'études qui montrent que cette approche fonctionne. Au contraire, une étude américaine a démontré, en 2002, dans le Personality and Social Psychology Bulletin, que des gens qu'on avait mis en colère s'en libéraient moins quand on les encourageait à frapper un sac de frappe, punching bag, que s'ils passaient 2 minutes assis dans le calme. Jogging. L'étude de 2024, qui faisait partie du doctorat de Mme Gjærvik, était une méta-analyse regroupant plus de 10 000 participants. Aucune différence d'efficacité des différentes approches n'a été observée entre les femmes et les hommes. Dans l'étude de 2024, le jogging était l'une des activités sportives qui diminuait le moins la colère. N'est-ce pas contraire aux multiples témoignages de coureurs qui rapportent ressentir du bien-être? Le nirvana du coureur, runner's high, survient seulement quand on atteint un certain niveau de fatigue, quand on est tellement fatigué qu'on ne parvient plus à focaliser sur des pensées. Généralement, ça arrive chez les athlètes, pas chez les gens qui font 5 kilomètres. cela dit, il est possible que la course en milieu naturel soit moins négative. Nous avons testé le jogging sur un tapis roulant, dit Madame Kjervik. Il se peut que ce soit ennuyant et que ça favorise la rumination, notamment de la colère. Se pourrait-il que les gens plus colériques aient aussi moins de capacité à se calmer? Par exemple, en faisant de la méditation? C'est possible, mais la méditation pleine conscience aide tout le monde, même ceux qui ont plus de difficultés à y arriver, dit la chercheuse norvégienne. Est-ce que les expressions verbales de colère sont aussi négatives que la violence des salles de défoulement? Il n'y a pas eu de comparaison directe entre ces deux approches, répond Mme Kjervik. Mais il y a eu plusieurs études qui ont montré que verbaliser sa colère de manière négative, avec des mots rageurs, perpétue le sentiment de colère. Est-ce que cela signifie qu'il faut éviter de penser à la colère? Non, il faut y penser, mais de manière calme, dit Mme Kjervik. Il ne faut pas supprimer ses émotions, sinon elles ressortent inévitablement. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les gens qui sont capables de parler de leurs émotions, notamment de leur colère, ont moins de problèmes de comportement. Ça vaut aussi pour la capacité à accueillir la colère d'autrui, à tout le moins quand elle est exprimée sans agressivité. D'ailleurs, la psychothérapie visant à améliorer la communication de ses propres émotions et la réception de celles des autres peut aider à la gestion de la colère. C'était « Utile, les salles de défoulement? » Un texte de Mathieu Perrault, paru le 31 mai 2026 dans La Presse.
La loi de Claire québécoise, difficile à appliquer sans ressources suffisantes, avertit la SQ. Un texte de Nicolas Lachance paru le 1er juin 2026 dans le Journal de Québec. La loi permettant aux femmes de connaître les antécédents criminels de leurs conjoints pourrait entraîner des conséquences dramatiques. Le ministre de la Sécurité intérieure du Québec, Yann Lafrenière, s'est dit satisfait d'avoir déposé son projet de loi qui donnera aux femmes la possibilité de consulter les antécédents de violence de leurs conjoints. C'est un travail qui remonte à déjà plusieurs mois, et là, le consensus est là. Le moment est là pour y aller rapidement. On doit agir, et moi, je suis très heureux de voir que les oppositions vont travailler avec nous dans ce dossier-là, a-t-il lancé en entrevue à l'émission Le Bilan. Le vice-président du gouvernement Fréchette a souligné qu'il était nécessaire de rendre le projet de loi 4 le plus simple, afin qu'aucune personne âgée de 14 ans et plus ne soit bloquée lorsqu'elle souhaite faire une demande sur le site Web. Le résultat va être transmis à une organisation qui s'y connaît, qui est spécialisée justement dans le traitement et dans l'accompagnement des femmes qui vivent ces situations-là. Elle va prendre le temps de rencontrer la personne qui était à risque, lui expliquer les résultats de ce qui a été communiqué par la Sûreté du Québec et de regarder par la suite qu'est-ce qu'on met en place, a-t-il expliqué. M. Lafrenière a indiqué que les hommes ont un rôle à jouer dans la prévention des féminicides dans la province. Il faut travailler en prévention, mais bien en amont. Et oui, comme homme, il faut se parler. Et quand on voit le nombre de féminicides, La mesure qu'on met en place va aider, a déclaré le ministre de la Sécurité intérieure. Yann Lafrenière croit que ce projet de loi contribuera à faire reculer la violence conjugale au Québec. Écoutez, comme père de deux jeunes filles de 16 et 18 ans, j'ai de l'espoir. Puis, je vais tout faire avec mes collègues de la justice et de la condition féminine pour que ça change, parce que ça nous préoccupe, a conclu le député de la circonscription de Vachon. Les parlementaires souhaitent adopter rapidement le projet de loi sur la communication de renseignements aux fins de protection contre la violence d'un partenaire intime. Ils peuvent le faire d'ici la fin de la session parlementaire, vendredi le 12 juin, dans l'espoir de mieux prévenir les féminicides en hausse au Québec. La SQ met toutefois en garde de l'Assemblée nationale. Il sera difficile d'atteindre ces objectifs sans ressources suffisantes et sans qu'un délai de préparation réaliste lui soit accordé afin d'assurer une implantation sécuritaire et efficace. Selon le projet de loi, la Sûreté du Québec sera responsable d'analyser les condamnations, les appels au 911 et les interventions policières visant un individu afin de ne retenir que les informations pertinentes pouvant être divulguées lors d'une demande. En commission parlementaire, le capitaine Daniel Boulian, responsable du service conseil et soutien opérationnel à la SQ, a indiqué que son organisation s'attend à traiter environ 10 000 demandes, chacune présentant un haut degré de complexité. Les délais de traitement ne constituent pas seulement un enjeu administratif, mais également un enjeu de sécurité. Sans ressources dédiées et pérennes, le mécanisme deviendra structurellement impossible à soutenir, a-t-il affirmé. Conséquences dramatiques. La SQ estime avoir besoin d'environ 23 ressources civiles, supervisées par des policiers, pour répondre à la demande et effectuer les vérifications dans les banques de données. Le manque d'effectifs entraînera inévitablement le délestage d'autres obligations à la SQ, ainsi qu'une augmentation des délais de traitement, ce qui pourrait entraîner des conséquences dramatiques pour les personnes à risque, ajoute-t-elle. Selon l'organisation, chaque dossier pourrait nécessiter entre 3 et 4 heures de traitement, ce qui risque d'allonger les délais. L'organisation insiste également sur l'importance d'encadrer par règlement la confidentialité et la conservation des informations, puisque la confiance du public repose sur la protection de ces renseignements sensibles. Le corps policier privilégie un modèle centralisé à la SQ, mais insiste pour que le cœur du dispositif repose sur l'accompagnement des victimes par des ressources spécialisées, pas uniquement l'accès à l'information. Durant et après la relation. Le projet de loi, déposé par le ministre de la Sécurité intérieure Yann Lafrenière, permettra à une personne de 14 ans et plus de présenter une demande concernant un partenaire intime, même après un premier rendez-vous. La demande pourra être faite pendant la relation ou après une rupture, période où surviennent plusieurs drames. Une conjointe pourrait ainsi être informée d'interventions policières au domicile de son partenaire pour violence conjugale, même en l'absence de plainte. Des antécédents en matière d'agression sexuelle visant des adultes ou des enfants, ainsi que des cas de fraude amoureuse pourraient également être divulgués. C'était la loi de Claire québécoise, difficile à appliquer sans ressources suffisantes, avertit la SQ. Un texte de Nicolas Lachance, avec la collaboration de Patrick Belle-Rose, paru le 1er juin 2026 dans le Journal de Québec.
La révolution numérique des données s'amorce dans les 1000 bibliothèques publiques du Québec. Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 9 mai 2026 dans Le Devoir. La stratégie numérique des bibliothèques publiques du Québec, maintenant en branle, va finalement coûter 5 fois moins cher que prévu. Une rareté.
La tendance des chantiers étatiques de numérisation va plutôt dans le sens des dérapages inverses. Le budget initial dévoilé au tournant de la décennie prévoyait un investissement d'environ un quart de milliard de dollars pour faire prendre le virage numérique complet au secteur des bibliothèques. Les dernières projections, confiées au Devoir par les promotrices du chantier, misent désormais sur une enveloppe globale d'un peu plus de 55 millions. Cette réduction au cinquième des coûts anticipés s'explique par l'amélioration des outils numériques. Au moment de l'étude de faisabilité, en 2011, le projet pensait devoir développer ses propres programmes. Il est maintenant possible d'utiliser des systèmes éprouvés. L'enveloppe révisée et diminuée de la stratégie numérique des bibliothèques va permettre aux quelques 1000 établissements du Québec de réaliser une révolution des pratiques et des services présentés comme uniques au monde, du moins à cette échelle nationale. À terme, d'ici le tournant de la décennie, les établissements pourront accumuler et analyser les données sur les collections et leurs usages pour offrir une expérience efficace et personnalisée aux citoyens. L'objectif est de mutualiser une seule et même solution numérique pour l'ensemble des membres, résume Ève Lagacé, directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec, ABPQ. Une des pilotes du programme. Les bibliothèques vont entrer dans le 21e siècle. On nage dans une mer de données autant du côté des documents que des usagers. On va être en mesure de faire dialoguer ces deux côtés qui ne se parlent pas actuellement, notamment pour améliorer la découvrabilité des contenus. L'ABPQ mène ce chantier avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, et le réseau Biblio du Québec, RBQ. L'entrevue pour faire le point sur l'implantation de la stratégie numérique a eu lieu le mois dernier dans le bureau de Marie Grégoire, PDG de la Grande Bibliothèque du Québec, en compagnie de Julie Blais, présidente du RBQ. La diminution substantielle des budgets tranche avec la routine habituelle des administrations publiques. Plusieurs grands chantiers de numérisation d'organismes et de services gouvernementaux, comme le dossier santé numérique ou le système de paye Phoenix, ont largement dépassé leurs budgets initiaux au cours des dernières années. Le projet SACLIC, initialement budgété à 638 millions en 2017, a finalement coûté presque deux fois plus cher. La stratégie en marche depuis 2019 a reçu 31,3 millions de dollars au dernier budget du Québec en mars. Il faudra ensuite environ 25 millions pour achever la création du réseau numérique. Les appels d'offres vont être lancés sous peu. Les branchements tests des premiers établissements se feront en 2027. Le déploiement progressif devrait permettre l'intégration de 100% des bibliothèques d'ici 2035. Favoriser la découvrabilité. Les études préalables ont montré que les bibliothèques publiques québécoises pourraient devenir plus actuelles et efficaces et proches de la population avec cette transformation majeure. Dès le départ, le projet a été défendu de manière collaborative par l'ABPQ, BANQ et le RBQ. Les bibliothèques des écoles, des collèges et des universités en sont exclues. Le plan concerne uniquement les bibliothèques municipales et publiques. Les directrices donnent des exemples concrets des retombées attendues. En déménageant d'une ville à une autre, un usager pourra conserver son historique d'emprunt. Un parent pourra distinguer ses emprunts de ceux de ses enfants. Et si une cliente a lu plusieurs livres d'une autrice, le système pourra lui recommander sa dernière parution. Mais on veut aussi faire en sorte que les citoyens tombent sur des propositions qu'ils ne cherchaient pas, ajoute Madame Lagacé. C'est vraiment ça, la définition de base de la découvrabilité. On va à la fois simplifier l'expérience des usagers et augmenter la découvrabilité parce que nos plateformes seront plus attrayantes et plus performantes. La grande numérisation va générer des données analysables par l'intelligence artificielle qui pourra à la fois aider à mieux gérer les collections et faire des recommandations de lecture personnalisées. Madame Lagacé évoque un parallèle avec les recommandations d'écoute et de visionnement proposées automatiquement par des plateformes comme Spotify ou Netflix. Ces moyens techniques vont bonifier les accompagnements par les bibliothécaires. La révolution technologique ne remplacera pas le contact humain, qui est super important en milieu rural, ajoute Madame Blais du RBQ. Les transformations devraient aussi permettre d'améliorer la sécurité des systèmes et d'éviter des ruptures de services. Les promotrices assurent que les données des clients seront protégées dans le respect de la loi 25, qui a modernisé la protection des renseignements personnels au Québec. Entrée en vigueur de façon échelonnée, 2021-2024, le texte législatif impose aux entreprises et aux organismes publics plus de transparence. Un consentement strict, la nomination d'un responsable, la déclaration d'incident et le droit à la portabilité des données. Je peux rassurer, ça fait partie du cahier des charges et cet objectif de protection des données fait partie des objectifs bien identifiés dès le début, dit Marie Grégoire. On a déjà prévu des primes si l'hébergement des données se fait au Canada. Les gens devront en plus indiquer clairement s'ils permettent l'usage de leurs données. C'était la révolution numérique des données s'amorce dans les 1000 bibliothèques publiques du Québec. Un texte de Stéphane Baillargeon paru le 9 mai 2026 dans Le Devoir.
Conquête spatiale, Artemis 2, une lueur pour les chercheurs dans une période sombre pour les sciences. En sous-titre, depuis son retour au pouvoir, Trump a durement visé le secteur et a notamment réduit le financement et les effectifs. Un texte signé Maggie Donaldson de l'agence France-Presse à Houston, texte publié dans Le Devoir du 8 avril 2026. Avant que les quatre astronautes de la mission Artemis II ne passent derrière la Lune, apogée de leur expédition, les membres du personnel de la NASA se sont rassemblés lundi dans la célèbre salle de contrôle de Houston pour une photo de groupe, affichant de larges sourires malgré une année difficile pour les sciences aux États-Unis. Depuis son retour au pouvoir, le président américain Donald Trump a durement visé le secteur scientifique et a réduit les financements, suspendu des projets et largement coupé dans les effectifs. La mission de la NASA, qui a envoyé des astronautes autour de la Lune pour la première fois depuis un demi-siècle, plus loin dans l'espace que jamais auparavant, représente donc une bouffée d'air frais pour les scientifiques. Derrière les équipes réunies face à l'objectif à Houston, les compteurs tournaient à mesure que le vaisseau spatial Orion se rapprochait de la Lune, un succès couronnant de longues années d'efforts. « Cette mission est un grand moment positif », a déclaré à l'agence France-Presse Jacob Bleacher, chef de l'exploration scientifique à la NASA. Citation, « Les gens travaillent là-dessus depuis des mois, des années, parfois plus d'une décennie », a-t-il expliqué. Fin de citation. La majorité des Américains, y compris parmi les chercheurs de la NASA, n'étaient pas encore nés lorsque les missions Apollo ont envoyé pour la première fois des humains sur la Lune à la fin des années 1960. La légende occupait une place importante dans les esprits, mais elle se conjuguait au passé, jusqu'à aujourd'hui. Citation, « C'est tout simplement surréaliste ». Fin de citation, s'est réjoui Jacob Bleacher depuis le mythique Centre spatial Johnson de Houston. Citation, « C'est la première occasion pour ma génération de se lancer et de vraiment accomplir ça », a-t-il ajouté, j'aime penser que c'est comme ouvrir la voie vers les futures explorations du système solaire par l'humanité. Fin de citation. Conditions très difficiles. Donald Trump a fait pression sur la NASA pour que des astronautes posent le pied sur la Lune avant la fin de son deuxième mandat en 2029. Mais la semaine dernière, la Maison-Blanche a proposé de baisser de 23 % le budget global de l'Agence spatiale et de réduire considérablement le financement de ses programmes scientifiques. Et comme de nombreuses agences gouvernementales américaines, la NASA a fait face à d'importantes réductions de ses effectifs, a expliqué Clayton Swope du Centre d'études stratégiques et internationales. Artemis II a donc été réalisé, citation, dans des conditions très difficiles, a-t-il décrit, fin de citation. Dans ce contexte, le lancement réussi du vaisseau et le déroulement de la mission constituent, citation, un vrai coup de pouce pour le moral. Fin de citation, estime Amanda Nam, chercheuse au siège de la NASA. Citation, « Nous travaillons tous à la NASA pour cela, et je pense que ça nous aide à nous rappeler que notre principale mission est cette exploration difficile, passionnante. Découvrir de nouvelles choses, essayer de nouvelles choses que nous n'avons jamais faites auparavant », a-t-elle déclaré à l'agence France-Presse. Fin de citation. Autre citation, « Je pense que ça va nous donner à tous un nouveau souffle », espère-t-elle. Régulièrement interrogé sur le poids de sa mission, l'équipage d'Artemis II préfère généralement rediriger l'attention sur un projet bien plus large. Les quatre astronautes évoquent régulièrement le travail de l'équipe qui nous porte, comme l'a formulé le commandant Reid Wiseman. Citation, « On a vraiment la sensation d'être porté par l'équipe qui nous soutient, et on ne fait que suivre le plan, en quelque sorte », a-t-il expliqué à mesure que le vaisseau s'éloignait de la planète bleue. « Beaucoup de gens nous ont appris comment faire fonctionner ça, comment piloter ce vaisseau, et nous avons suivi une excellente formation, et on avance simplement étape par étape », a-t-il décrit. « Je trouve que c'est remarquable ce que cette équipe est capable de faire. » Fin de citation. Et fin de ce texte de Maggie Donaldson de l'Agence France-Presse titré « Artemis II, une lueur pour les chercheurs dans une période sombre pour les sciences ». Texte publié dans Le Devoir du 8 avril 2026.